Le titre de cet enseignement est « Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quelle est ma vocation ?» C'est un enseignement qui s'adresse donc en priorité aux jeunes qui se posent la question de leur appel et de leur vocation, et cet enseignement vise simplement à les aider à poser ce discernement. Je rappelle avant de commencer que le Concile Vatican II, et avec lui toute la tradition de l'Église, souligne le fait que la vocation universelle, c'est la sainteté. Et que cette vocation universelle, cet appel universel à la sainteté, il se traduit dans les faits, soit par un appel à la vie consacrée ou au sacerdoce, soit par un appel à fonder une famille dans le cadre du mariage. Alors comment savoir si je suis appelé au mariage, si je suis appelé à devenir religieux, religieuse, ou si je suis appelé à devenir prêtre? Il est classique, il est fréquent que les jeunes aient des appels contradictoires, c'est-à-dire que telle jeune fille se sentira appelée à être religieuse, mais en même temps, elle a le désir de fonder une famille et d'avoir des enfants, ou tel garçon se sent profondément appelé au sacerdoce, mais en même temps, père de famille. Comment être sûr, comment savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi? Cet enseignement est en quatre parties. La première partie consiste à fonder le discernement, c'est-à-dire quelles sont les bonnes conditions pour pouvoir poser un discernement qui soit sain et serein sur ma vie. Deuxième partie, poser le discernement lui-même. Troisième partie, le protéger des pièges classiques. Et quatrième partie, incarner ce discernement. Je rappelle que cet enseignement, que ce soit en audio ou que ce soit en fichier, est téléchargeable sur dogmatique.net. Alors, première partie, comment fonder les bases d'un bon discernement? Quelles sont les conditions pour poser un bon discernement? Eh bien, il y a, selon moi, quatre conditions. La première, c'est ce que j'ai appelé avoir une vie de prière en ADSL. ADSL pour adoration, droiture de cœur, sacrement et lecture de la Bible. Il est évident que si je veux connaître la volonté de Dieu, il faut que je fréquente Dieu. Et fréquenter Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire le prier et m'habituer à entendre sa voix. L'adoration du Saint-Sacrement, ou tout au moins un temps de prière, de cœur à cœur avec le Seigneur, quotidien, m'aide bien sûr à affiner mon sens spirituel à l'écoute de l'Esprit-Saint. L'idéal serait d'avoir une heure d'adoration par jour, mais je suis bien conscient que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, de prendre chaque jour un bon temps de prière devant le Seigneur exposé dans le Saint-Sacrement, si c'est possible, et de lui parler simplement comme un ami parle à un ami, disait Saint Ignace de Loyola, et devant lui, avec lui, peu à peu m'habituer à écouter la voix de l'Esprit-Saint qui murmure dans mon cœur. Le D de ADSL signifie droiture, droiture de cœur, droiture morale. Il est évident que je dois vivre au minimum ce que demande l'Évangile si je veux pouvoir justement avoir une bonne écoute de l'Esprit-Saint. Il est évident que si je ne respecte pas les préceptes élémentaires de la vie chrétienne, eh bien j'aurai beaucoup de mal à reconnaître où parle l'Esprit et où parlent simplement les passions en moi. Et donc c'est sûr que je dois faire cet effort dans ma vie de mettre en pratique l'Évangile. Au-delà de droiture morale, le D est également à comprendre comme le D de désir. Je dois avoir mon cœur plein du désir de Dieu. Être chrétien, ça ne veut pas dire être saint, mais ça veut dire avoir le désir de la sainteté. Et c'est très important, cette droiture de cœur, ce désir véritable, cette pure volonté de suivre le Seigneur où qu'il aille et de se donner à lui. Le S d'une vie de prière en ADSL, c'est bien sûr les sacrements et les deux sacrements. Les plus importants sont bien sûr l'Eucharistie et la confession. Je dois fréquenter la confession au minimum une fois par mois pour garder cette conscience, ce cœur clair, et l'Eucharistie, bien sûr, une fois par semaine, mais si possible aussi à diverses occasions durant la semaine. C'est toujours un lieu de grâce où l'on reçoit non seulement la grâce, mais également l'auteur même de la grâce, le Christ Sauveur. La vie de prière était la première condition pour poser un bon discernement. Et bien la seconde condition, c'est d'avoir de bons amis chrétiens autour de soi. Un chrétien seul est un chrétien mort, ou en tout cas en danger. Et avec ces bons amis, de vivre des temps forts tels que sessions, retraites, pèlerinages, camps de prière, groupes de prière, JMJ, etc. C'est sûr qu'on a besoin d'être soutenu. C'est sûr que de vouloir vivre en chrétien, ça n'est pas une vocation pour les lâches, c'est même une vocation extrêmement difficile et exigeante, et il est bien difficile de discerner seul. Il faut également connaître chaque état de vie, c'est important que les choses ne se situent pas seulement au niveau de l'émotion ou de l'affectivité, mais qu'elles s'enracinent profondément dans l'intellect, dans l'intelligence et dans la connaissance. C'est la troisième condition, connaître chaque état de vie. Enfin, la quatrième condition, c'est demander clairement à Dieu quelle est sa volonté pour moi, d'une façon très explicite et d'une façon très claire. Bien sûr, le Seigneur est au courant, hein, mais nous avons besoin d'expliciter cette demande au Seigneur. Voilà très rapidement les conditions qui me semblent être saines pour poser un bon discernement. Deuxième chapitre, poser le discernement lui-même. Il y a à ce moment-là trois critères incontournables. Le premier critère, c'est écouter le désir le plus profond de son cœur. Si vous êtes baptisé, ça veut dire que l'Esprit Saint est en vous, qu'il murmure en vous. Et si les conditions préalables sont posées, c'est-à-dire si je vis dans la prière, si je vis dans une droiture de cœur, si je vis ma foi chrétienne, eh bien, je peux véritablement reconnaître la voix de l'Esprit murmurant au fond de mon cœur. Alors, le désir le plus profond de mon cœur est le désir de l'Esprit en moi. La deuxième condition, c'est que ce désir dure. Il est évident que si je sors d'une session, d'une retraite ou d'un temps très fort spirituellement, par exemple, mon désir pourra être de me consacrer, mais que peut-être 2 mois après, le désir aura changé. Non, il faut un bon discernement, discerne un désir qui dure, c'est-à-dire un appel qui dure dans le temps. Dans le temps, ça veut dire plusieurs années, quelquefois depuis l'enfance, même très souvent les premiers appels se font dès l'enfance, dès l'âge de raison, 7-8 ans, et il va se confirmer vers 25 ans. Donc un appel qui dure et un appel qui correspond au désir le plus profond de mon cœur. Il n'est pas du tout contradictoire que j'ai des désirs différents dans mon cœur. Au contraire, c'est un bon signe, ce serait inquiétant. Quelqu'un qui voudrait devenir prêtre, par exemple, parce qu'il n'a pas voulu se marier, ou bien une religieuse, ou une jeune fille qui croit qu'elle a la vocation à devenir religieuse parce qu'elle a peur des hommes ou qu'elle n'a pas le désir de se marier. Non, ce qui est sain, c'est d'avoir tous les appels différents dans son cœur, mais à nous de savoir discerner quel est l'appel le plus profond. La troisième condition, évidemment, c'est écouter l'Église, se faire accompagner spirituellement. Ce n'est pas moi qui décide d'être prêtre ou religieux ou religieuse, c'est l'Église qui m'appelle. Et pour ça, j'ai besoin d'un accompagnement spirituel, de fréquenter telle ou telle communauté, tel ou tel ordre, tel ou tel chargé de vocation. Il en va évidemment de même avec le mariage. Je peux avoir l'appel à me marier, à épouser telle ou telle jeune fille ou tel ou tel garçon, mais il faut bien que lui aussi soit d'accord. Donc ça veut dire que je ne discerne pas tout seul, dans un cas comme dans l'autre, quel est mon appel, quelle est ma vocation. Donc pour résumer ce chapitre 2, eh bien, le désir le plus profond de mon cœur, si ce désir dure et s'il est confirmé par l'Église, eh bien je peux sincèrement accueillir ce désir comme venant du Seigneur. Le troisième chapitre, rapidement, consiste simplement à protéger mon discernement. Il y a 3 pièges, je pense, à éviter, et tous sont fondés sur la peur. Hein. Le principe est que la peur ne vient jamais de Dieu. Elle ne vient jamais de Dieu. La paix et la joie viennent de Dieu par son Esprit Saint, mais la peur jamais. Le premier piège consiste à ne jamais choisir et à rêver sa vie. Je ne vis pas mes rêves, mais je rêve ma vie. Et toute ma vie, j'attends quelque chose qui ne viendra jamais puisque je ne veux pas choisir. Et si je ne veux pas choisir, eh bien c'est la vie qui petit à petit choisira à ma place. Si je refuse de choisir entre épouser Juliette ou Christine, eh bien je finirai célibataire tout simplement. Si je refuse de choisir entre devenir prêtre ou fonder une famille, eh bien finalement je finirai également sans avoir rien fondé, ni sacerdoce, ni famille. Donc c'est un piège classique qui consiste à fuir sa responsabilité et à ne pas arriver à dépasser cette peur de se tromper. Un deuxième piège consiste à se décourager, et là il est évident qu'il faut persévérer chaque jour avec la même ardeur, avec la même joie. Les temps de Dieu ne sont pas nos temps, mais nous pouvons être sûrs que Dieu bénit toujours la persévérance et que quand je serai prêt, il m'appellera et il m'appellera d'une façon très claire. Le troisième piège qui est assez classique aussi, c'est de démissionner de sa liberté en demandant des signes au Seigneur. Eh bien, le Seigneur ne donne pas de signes. Le Seigneur confirmera une fois que j'ai fait mes propres choix, mais il ne me forcera jamais en me donnant des signes. C'est classique, malheureusement, quelquefois, de fuir sa liberté et sa responsabilité en demandant tel ou tel signe au Seigneur. Je veux ouvrir la Bible au hasard et on verra bien ce que le Seigneur me dit. Eh bien non, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Par contre, une fois que j'ai posé réellement et profondément mon discernement, et d'une façon définitive, alors il confirmera et il confirmera en abondance. Le quatrième chapitre est celui qui concerne l'incarnation de ce discernement. Il s'agit maintenant d'incarner concrètement, de faire un pas. Eh bien, ce pas, il faut le franchir. Alors, si je veux être prêtre, ça consiste à rencontrer le chargé de vocation de mon diocèse, par exemple. Si je veux rentrer dans une communauté religieuse, ça consiste à passer un temps dans cette communauté d'un mois ou de trois mois. Et bien sûr, si je veux me marier, ça consiste à demander la jeune fille ou en mariage. Quoi qu'il en soit, et je terminerai par là, nous pouvons être sûrs que nous sommes 100% gagnants. C'est-à-dire que si je sens l'appel en moi, dans les conditions évoquées et en posant le discernement tel que on doit le poser, si je sens l'appel, par exemple, à devenir consacré, eh bien, c'est en franchissant le pas que je trouverai une confirmation ou non. Et j'ai envie de dire, même si je ne trouve pas la confirmation, eh bien, maintenant, je sais que mon appel n'était pas là, et donc je peux cheminer plus paisiblement vers un autre appel. Donc, quelle que soit finalement l'issue, je suis 100% gagnant. Je sais que je n'ai pas rêvé ma vie, mais que j'ai véritablement essayé de vivre mon rêve, et que si ça n'a pas abouti, eh bien c'est que mon rêve n'était pas là où je le pensais, et que je peux paisiblement me diriger vers quelque chose d'autre. Il n'y a rien de pire que de se retrouver dans une situation de quelqu'un qui croit qu'il était appelé à l'autre vocation que celle qu'il est en train de vivre. Eh bien, le meilleur moyen pour ça, c'est, en posant un discernement sincère, d'avoir le courage et de trouver en l'Esprit Saint le courage de franchir un pas. Voilà, en conclusion, je rappellerai simplement encore une fois que tout ce temps de discernement doit se faire dans la paix, qu'il doit se faire dans la prière, et que, quelles que soient mes angoisses de me tromper, je peux toujours me rassurer en me disant que l'appel universel est le plus important et le seul qui compte finalement, c'est l'appel à la sainteté, et que le Seigneur bénira de toute façon en abondance, un cœur qui se donne à lui sincèrement. Il y a dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 16, un verset qui dit « Dieu parcourt des yeux toute la terre, cherchant celui dont le cœur est tout entier tourné vers lui. » Eh bien, que Dieu bénisse tous ces jeunes qui désirent avoir le cœur tout entier tourné vers lui et qu'il comble leur vie de bonheur et de joie. Amen.